Chapitre 16. La maison de campagne de Bénédicte Masson. Ici se terminent les mémoires de Bénédicte Masson. Grâce à eux, nous sommes entrés dans cette grande misère morale, dans ce drame intérieur créé par la laideur. C'était nécessaire. Le flambeau allumé par lui-même et à la lueur duquel nous avons examiné ce paria, l'homme laid, va nous aider à éclairer certains coins du drame extérieur dont il fut l'effrayant héros. Voyons d'abord ce qui se passe dans sa petite maison de campagne. Ce que nous en connaissons déjà n'est guère rassurant. Corbilières-les-Eaux est à 1 heure en express de Paris. On descend à une petite gare qui donne directement sur la place du bourg qui compte au plus 800 habitants. Il y a 20 ans, il n'y avait là qu'une halte. C'est la halte qui a créé cette agglomération villageoise au milieu de cette vaste plaine aquatique et traîtresse dont l'aspect ne rappelle en rien les paysages aimables, ombreux, touffus, si accueillants de l'Île-de-France. Marais et marécages, étangs couverts de plantes d'eau, gardés par des saulaies désolés, par des boqueteaux sauvages, domaine immense du gibier d'eau et des poissons, et cependant peu fréquenté des chasseurs et des pêcheurs parisiens qui aiment la joie du décor et les gaietés de la guinguette. Pour se rendre chez Bénédicte Masson en quittant la gare, on suivait d'abord la route communale, puis on la quittait pour des sentiers étroits, humides et bourbeux, même au temps des chaleurs, et après avoir cheminé une demi-heure environ entre des rives mal définies, entrevues à travers une muraille de roseaux, dissimulées sous le cœur flottant des nénuphars, on entrait dans une espèce de cirque, fermé par un petit coteau sombre et boisé, qui se reflétait dans les eaux noires d'un étang. La maison était entre l'étang et le bois. Elle eût du reste été assez coquette avec ses briques et son toit d'ardoise, si elle eût été moins délabrée, si son jardin de curé avait été bien tenu et son potager avait été cultivé. Mais depuis qu'elle appartenait à Bénédicte Masson fils, celui-ci n'en prenait guère soin, se refusant à toute réparation, ne voulant point d'homme de peine chez lui, pas même de domestique à demeure. Il tenait cette petite propriété de son père, qui avait été un pêcheur et un chasseur enragé et qui avait fait élever cette bicoque dans un pays qui, pour lui, était une contrée de rêve, où il venait passer ses vacances et s'installer sitôt qu'il avait 24 heures de liberté. Le père de Bénédicte Masson avait fait de bonnes petites affaires dans la reliure populaire et laissé à son fils une somme assez rondelette avec laquelle celui-ci s'était payé le luxe de parcourir le monde en artiste et suivant une fantaisie romantique qui le faisait prendre souvent pour fantasque alors qu'il n'était que poète. Bénédicte était revenu de ses voyages presque pauvre et nous connaissons sa manière de vivre. Il avait conservé la maison des Corbillères parce que cette solitude et cette désolation lui plaisaient. Plusieurs fois, de gros propriétaires des environs qui avaient loué des chasses et la pêche, surtout le domaine des marécages, avaient voulu la lui racheter pour y installer un garde, mais il avait refusé toutes les offres. Quand il quittait l'île Saint-Louis, c'était pour venir se réfugier là, vivre en sauvage avec des lys, travaillant vaguement à quelques reliures d'art, des travaux méticuleux qui demandaient un temps infini, des mosaïques où finissaient toujours par apparaître quelques figures de femmes qui, dans les derniers temps, ressemblaient singulièrement à Christine, de même que, de son côté, Christine reproduisait inlassablement l'image de Gabriel. Et puis, tout à coup, il était pris de dégoût pour son œuvre, la rejetait avec rage ou même l'anéantissait dans le petit atelier qu'il s'était créé là pour sa satisfaction personnelle et en dehors de tout esprit commercial. Et il sortait, habillé en boucanier, rêvant pendant des jours et des nuits la vie de la prairie comme il l'avait connue lorsqu'il était enfant, dans les livres de Gustave Aimard, faisant cuire quelques morceaux de bidoche sur des sarments entre deux pierres, suspendant les nuits à un hamac qu'il avait fabriqué dans un ancien épervier trouvé dans la succession du père et qu'il attachait aux arbres. Chose bizarre, ce boucanier ne chassait ni ne pêchait, n'avait ni fusil, ni engin d'aucune sorte. Mais il avait dans ses poches un carnet et un crayon, et il faisait des vers. Il faisait des vers sur l'amour. Il ne pensait qu'à cela, l'amour. Hideux, il détestait les femmes, mais il les eût voulu toutes. L'aventure qu'il venait d'avoir avec Christine et qui ne faisait que commencer avait un peu discipliné sa frénésie cérébrale, mais auparavant, chaque fois qu'il se trouvait en face d'une femme, il avait envie de la mordre autant que de l'embrasser tout de suite. Cependant, il n'en avait jamais touché aucune, disait-il, et elle n'avait jamais couru aucun danger avec lui, affirmait-il, à cause d'une timidité qui le paralysait dès le premier geste jusqu'à l'anéantissement. Ce que nous avons reproduit de ses mémoires semble assez en rapport avec ce Bénédicte Masson, en dehors de la dernière scène avec Christine, scène sur la brutalité de laquelle il glisse du reste dans les mêmes mémoires assez rapidement. Malheureusement, pour lui, il y avait ces six femmes qui étaient venues chez lui dans son désert et qu'on n'avait plus revues nulle part. Chapitre 17, la septième. Cette succession de disparitions avait frappé plus d'un esprit dans le pays. On s'en était d'abord amusé, puis on avait jasé assez sournoisement. Enfin, comme depuis de longs mois, on ne revoyait plus Bénédicte Masson, on avait parlé d'autre chose. Mais il y avait quelqu'un qui pensait toujours à ces disparitions-là. C'était le père Violette. Le père Violette était garde-chasse de son métier, tant qu'on lui faisait l'honneur de le charger de ses importantes fonctions. Malheureusement, il y avait des années où les sociétés de chasseurs se désintéressait tout à fait des marécages de corbillères, alors le père Violette devenait braconnier. De toute façon, c'était un homme précieux. Avec lui, on était toujours sûr d'avoir du gibier. Le père Violette n'avait rien en lui qui rappelât la fleur printanière dont il portait le nom. Il n'en avait ni la fraîcheur, ni le parfum, ni la modestie. C'était le plus grand habeleur de chasse et de pêche que l'on pût entendre. Avec cela, le pays lui appartenait. On ne pouvait le traverser sans qu'il eût l'œil sur l'audacieux qui pénétrait dans son domaine. On l'avait toujours vu habillé de la même façon. Vieille culotte de velours à côtes qui n'avait plus de couleur, toujours bottée, une veste qui était toute en poche, et dont il sortait des kilomètres de cordelettes, d'extraordinaires engins de pêche, une cardassière qui ne quittait point son épaule même quand on ne lui voyait point de fusil. Dans ces cas-là, on pouvait être sûr que le fusil n'était jamais très loin. Un brûle-gueule, qui semblait ne plus être qu'un morceau de braise entre ses lèvres desséchées, sous sa moustache jaunie, calcinée par ce charbon ardent. Un visage taillé à coups de serpe, de grandes oreilles qui remuaient, des narines toujours au vent, tout du chien d'arrêt. de petits yeux vert clair entre des longs cils albinos et qui voyaient d'incroyablement loin. Il n'y en avait pas deux comme lui pour lancer l'épervier ou démolir une bande de canards sauvages à l'affût, vers lequel il les attirait avec son équipe de poupées de bois flottantes par les nuits claires au moment des grands passages. Il habitait une hutte au milieu des têtards, comme il appelait les saules pâles, qui dressaient leurs troncs ouverts, égorgés sur deux rangs au bord des marais. Il vivait là, dans un domaine mi-terrestre, mi-aquatique, parmi les glaïeuls, les sagittaires, les roseaux. Il y avait son bachot, son vivier barbu, autour duquel rôdait la perche noire, où passaient rapides les folles escadres d'abeilles argentées. Il détestait Bénédicte Masson pour bien des raisons. Une des plus fortes était que celui-ci avait fait manquer une occasion extraordinaire de devenir presque un bourgeois, un vrai garde-chasse établi dans une vraie maison, un chalet comme il convient à un vrai garde, et cela en refusant sa propre maison, celle de Bénédicte Masson lui-même, à un gros bonnet qui ne demandait pas mieux que de louer tout le pays environnant, chasse et pêche, et qui aurait fait du père Violette son homme et qui l'aurait installé là jusqu'à la fin de ses jours. « Assurément, car le marquis de Coulteret, oui, c'est de lui qu'il s'agit, semblait avoir alors sur cette contrée des desseins bien arrêtés. Comme en vrai seigneur du temps jadis, il tenait à dominer tout le pays, à n'être gêné par personne autour de la grande propriété qu'il avait achetée de l'autre côté du vallon, par-delà le bois, et où sa maîtresse, une danseuse célèbre, paraît-il, une indienne nommée Dorga, donnait chaque année à des dates fixes des fêtes auxquelles on venait de loin, de très loin, même d'Angleterre. Mais cette brute de Bénédicte Masson, qui ignorait tous ces détails, n'avait rien voulu savoir. Le père Violette était allé un jour chez le relieur pour le tâter. Oh, il avait été mis à la porte comme un voleur. Il n'avait même pas eu à prononcer le nom du marquis. On ne lui avait pas laissé prononcer 10 paroles. Mais le marquis s'était tout de suite désintéressé de l'affaire. L'ancien garde ne l'avait même plus revu. Eh bien, cette raison que le père Violette avait de détester Bénédicte Masson, raison qui avait bien son importance, n'était point la plus forte. La première de toutes et la plus lointaine était que cet affreux garçon laid comme les 7 péchés capitaux lui gâtait son marécage, non point parce que Bénédicte Masson était repoussant à voir, mais parce que le père Violette ne pouvait comprendre ce que l'autre était venu y faire. Bien avant l'histoire de la disparition des femmes, laquelle pouvait fort bien s'expliquer après tout par l'effroi que leur inspirait cet être misérable et disgracié de la nature, Bénédicte Masson était pour le père Violette le plus grand mystère du monde. Longtemps, l'ancien garde, devenu braconnier, l'avait observé avec une inquiétude grandissante, et encore maintenant ce n'était pas sans effroi qu'il passait à côté de lui comme à côté d'un fou dangereux dont il faut tout craindre. Songez donc, Bénédicte Masson vivait dans le marais comme un vrai sauvage, comme le père Violette lui-même, plus mal vêtu que lui, quand les femmes n'étaient pas là, couchant à la belle étoile, passant des heures sans remuer, accroupi entre les roseaux, comme qui dirait à l'affût, et il ne pêchait ni ne chassait jamais. Ça, c'était une énigme. Le père Violette en était positivement malade. Jamais, jamais un fusil, jamais un engin, jamais un bout de fil, un collet, un bout de gaule. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là pendant des journées et des nuits entières, se traînant de ci de là, furetant, les mains dans les poches, ou s'arrêtant les yeux fixes pendant des heures, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il chassait, quoi, ou comme s'il pêchait. Et il ne pêchait et ne chassait jamais. Et parfois, il causait tout haut, tout seul. Ça, le père Violette l'avait entendu. Mais qu'est-ce qu'il avait donc dans la cervelle, cet oiseau-là, s'il n'était pas fou? Il avait tout du crime. Le père Violette s'en était tenu là. Depuis le moment où il avait été bien sûr que Bénédicte Masson ne braconnait pas dans un pays comme celui-là, où il n'y avait rien à faire qu'à braconner, il avait dit « Oh, là, un garçon qui a tout du crime !» Cela une fois admis, on comprend facilement l'impression produite sur l'esprit du père Violette par cette bizarre disparition des femmes qui s'était succédée si étrangement chez notre relieur. Il y avait déjà plus d'une semaine que Bénédicte Masson était revenu s'installer à Corbillière, où il avait repris ses habitudes de trappeur mélancolique, quand le père Violette, certains soirs, pénétra dans la cuisine de l'arbre vert de l'autre côté du coteau, sur le versant d'où l'on découvrait un pays qui n'avait plus rien à faire avec la plaine aquatique de Corbillière, et où apparaissait, entre les boqueteaux verdoyants, de ci, de là, le vaste mur d'enceinte qui entourait le parc des Deux Colombes, la propriété que le marquis de Coulteret avait achetée pour sa maîtresse d'Orga, un don royal. L'auberge était en lisière de forêt, regardant le soleil se coucher au bout de la plaine découverte, abritée au nord par un hêtre magnifique, l'arbre vert. Un porche, une cour, une écurie, un hangar qui servait aux besoins de garage, un enclos palissadé, soigneusement cultivé de légumes ou pommes de terre, quelques arbres fruitiers au-dessus de la porte, la vigne pendait en grappes, encore verte. Un cep nerveux festonnait en l'ombrageant l'espèce de tonnelle qui entoure le vieux puits. Une bonne hôtesse, la mère Muche, tout en largeur et toujours de bonne humeur, depuis qu'un heureux trépas la débarrassait de son grelin d'époux, qui passait son temps à boire son fond avec son revenu, et qui en est mort. Le père Violette est toujours bien reçu là-dedans. C'est le pourvoyeur occulte de certains repas clandestins, où l'on mange ce qui est généralement défendu par les justes lois. On vient d'assez loin faire des parties fines à l'arbre vert. Spécialité de matelote, gibelotte et surtout un certain brochet farci, rôti, arrosé d'un vouvray encore un peu agressif qui a fait la renommée de la mère Muche. Et puis de la discrétion. On peut venir avec une dame, on ne vous demande pas de contrat de mariage, et l'on n'écoute pas derrière les portes. Ce n'est pas le genre de la maison. Quand le père Violette entra dans la cuisine, la mère Muche était à ses fourneaux. Il ne dit même pas bonjour, ni bonsoir, ni rien. Il se laissa tomber sur un banc au coin de l'âtre et ralluma sa pipe avec une braise au bout des pincettes, et puis il cracha dans le foyer et regarda la flamme. « Eh bien, » finit par dire la mère Muche en se retournant, « ton Bénédicte, t'as-t-il enfin débarrassé le plancher ?» Le plancher, drôle de façon de désigner les marécages de Corbillière. Mais la mère Muche n'y regarderait pas de si près, puis elle était tout à fait excusable de s'exprimer ainsi, car elle ignorait ces marécages-là. elle ne les avait jamais vus. On lui avait toujours dit que le pays d'où le père Violette rapportait de si bonnes choses était si laid qu'elle n'avait jamais eu le courage de grimper à travers bois jusqu'en haut du coteau pour savoir comment il était fait. Mais depuis des années, elle entendait parler du seul homme au monde qui voulut bien habiter cette contrée-là avec le père Violette et malgré le père Violette. Oh, le garde ne lui laissait rien ignorer du monstre de laideur qui avait choisi cette solitude pour y attirer des femmes et les assassiner. Ça, c'était le fond, le tréfond de la pensée du père Violette. Il ne l'avait pas caché à la mère Muche, sous le sceau du plus grand secret, bien entendu. Celle-ci ne faisait qu'en rire. La mère Muche riait de tout depuis que le mère Muche était mort. « Quelle drôle de tête tu fais, Violette !» reprit la mère Muche. « C'est qu'il y aurait du nouveau du côté de la butte. T'as l'air tout retourné. Allez, un verre de piau bien frais, hein ? Ça te remettrait peut-être bien. Donnez donc à boire et vous saurez tout, mère Muche. La septième est arrivée. » « Quelle septième ?» L'autre haussa les épaules. « Oh, vous vous foutez encore de moi, vous savez bien de quoi je parle. »« Eh bien oui, je suis retourné à l'idée que cette pauvre petite-là, qui passera comme les autres et qui n'en sera pas plus question que si elle avait jamais existé. »« Ah, mais cette fois, ça n'ira pas tout seul, je suis là. » La mère Muche continuait à rire. « Oui, t'es là, t'es toujours là. » Faudrait peut-être qu'il te demande la permission, vieux jaloux. » Et elle lui versa à boire, mais le père Violette repoussa le verre, événement grave. Nous verrons bien si vous rigolerez comme ça, le jour où je vous apporterai la preuve, une seule preuve, ça se rencontre. » Oh, sûr, répliqua-t-elle. Il faut bien qu'ils les mettent quelque part, moi qui ne les mange. Vous blaguez, je vous dis qu'elles n'ont point toutes repris le train. Ça, c'est une preuve. Eh bien, elles sont reparties par la route. Du moment que tu me dis qu'il est si laid, je vois pas ce qu'il les aurait retenues à son service dans un endroit assez désolé. Et puis, elles ont peut-être eu peur. Alors, elles se sont sauvées. Peur ? Je crois qu'elles ont eu peur. Elles te l'ont dit ? La dernière me l'a dit. Là-dessus, il ressaisit son verre et le vida d'un trait pour se donner du courage ou s'éclaircir les idées. Et la dernière qui est restée près de 3 semaines, oui, j'ai pu lui parler à celle-là. Et m'en a raconté, allez, sur le Bénédicte. Et elle avait peur et elle est restée 3 semaines. Ben, elle est restée justement à cause de ça. Elle est restée parce qu'elle avait peur. Oui, que je vous dis. Oh, c'était une drôle de fille, allez. Et on aurait pu croire qu'ils étaient bien faits tous les deux pour s'entendre. Eh bien, elle a disparu comme les autres, envolée, volatilisée. C'est à ne pas en croire. Elle est peut-être simplement retournée à Paris. Non, j'ai fait mon enquête. Celle-là, je connaissais son nom et j'avais pu savoir où elle habitait. On l'a jamais plus revue. Elle s'appelait Catherine Belle, et belle elle était, en effet. Oh, un sacré brin de fille. Si elle avait voulu, je l'aurais bien débarrassé de son Bénédicte, mais voilà, moi, je lui faisais pas peur. Je vous dis que c'est inexplicable. La première fois que je lui ai parlé, c'était un soir. Je rôdais autour du chalet. Je vois une ombre qui s'en échappe en courant. Puis la porte se rouvre et le Bénédicte paraît. appelant d'une voix soupillante « Catherine ! Catherine !» Mais Catherine était restée immobile, cachée derrière une haie de roseaux à quelques pas de moi, dont elle ne soupçonnait pas la présence. Maintenant, Bénédicte l'appelait d'une voix de colère, et comme Catherine ne répondait toujours pas, il referma la porte avec fureur. Alors, Catherine se releva et courut dans la direction de la gare. Je la suivis et la rejoignis dans un moment où elle s'était égarée dans l'obscurité. « Oh, craignez rien !» Elle lui dit, « Je suis là, c'est moi le garde, le père Violette. Qu'est-ce qui vous a encore fait, le misérable ?»« Bon, mais rien !» me dit-elle. « C'est moi, il me fait peur. » Il a au contraire été très gentil. Je ricanais. Vous êtes la sixième fiche avec qui il est très gentil. Et elles s'en vont toutes. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Elles s'en vont toutes au bout de 24 heures, de 2 jours, de 3 jours. Mais vous voilà 8 jours que vous êtes là. Vous avez de la patience. Il m'a encore dit ça. Alors pourquoi restez-vous ? Parce qu'il est très malheureux. Il est à plaindre, le pauvre garçon. Il pleure. J'ai eu pitié de lui. Et vous en avez assez maintenant ? Elle ne me répondit pas. Pourquoi vous êtes-vous enfui ce soir ? Parce qu'il a voulu m'embrasser. Oh, il n'est pas dégoûté, fis-je. Mais vous, je comprends que vous le soyez un peu. Là-dessus, elle garda le silence. Et comme elle s'était arrêtée, je lui dis si vous voulez prendre le train de 10h40, vous n'avez pas de temps à perdre. Non, non, me répliqua-t-elle brusquement. C'est l'enfantillage, je retourne. Où ? Chez lui, chez Bénédicte Masson. Oui. Oh, j'étais abasourdi. Écoutez, fis-je, vous avez tort, vous avez tout à fait tort, c'est moi qui vous le dis. Vous vous en repentirez. Ce garçon-là a tout du crime. Elle réfléchit un instant et elle répéta. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit ça, moi aussi. Eh, vous y retournez ? Oui, pour voir. Mais ça finit toujours par les larmes, au fond. Il n'est pas bien dangereux, allez. Et elle rentra au chalet. Et tout ce que j'ai pu lui dire, c'est comme si j'avais chanté. Ce qui l'amusait, celle-là, c'est qu'il lui faisait peur. Oh, décidément, on ne sait jamais avec les femmes. Les jours suivants, vous pensez si j'étais à l'affût de mes deux tourtereaux. C'était à crever de rigolade. Le monsieur faisait toilette, il se faisait beau, le monstre. Il mettait ses habits de la ville, une cravate, un chapeau, et il lui en racontait. Elle, visiblement, se jouait de lui, tout en ayant peur, mais voulait savoir jusqu'où ça pourrait bien aller, cette histoire-là. Mais t'as vu qu'elle l'a appris à ses dépens et que sa curiosité lui a pas porté bonheur. Une dizaine de jours plus tard, il était de nouveau tout seul, tantôt se promenant dans le marais avec une figure épouvantable, tantôt se jetant dans son hamac avec des grognements de bêtes enragées, mordant les cordes. C'est pas un chrétien, ça. J'avais envie de l'abattre d'un coup de fusil. Oh, Père Violette, pas de bêtises, interrompit la mère Muche. Qu'est-ce que c'est que cette petite qui vient d'arriver ? Une enfant, ça n'a pas plus de 17 ans. Mais celle-là, faut pas qu'il y touche. Je fais le gendarme. Riez pas, mère Muche. Cette fois, à la première alerte, je le dénonce. Faudra bien qu'il s'explique. Mais d'où qu'elle vient, la petite? Elle doit être berrichonne. C'est une fille de la campagne, elle l'appelle mon oncle. Ben, ce serait-il que ce serait vraiment son oncle? Paraîtrait. Du reste, il n'a pas fait de frais pour celle-là. Il s'est pas déguisé en gentleman. Il a plutôt l'air de la traiter comme une petite servante. Il lui fait faire ses courses. Ça n'est plus le boulanger qui apporte les provisions. Personne ne vient plus au chalet. Il a même remercié le souillon qui venait 2 heures tous les matins faire le ménage. Ils vivent tout seuls, tous les deux, loin de tout, sûrs de n'y être dérangés par personne. La petite n'est ni belle ni laide, s'appelle Annie. Tu veux parler? Oui, tantôt, je lui ai demandé si elle se plaisait dans nos marais. Elle m'a répondu... Mais pourquoi donc que je m'y plairais pas? Mon oncle est si bon. Textuel. Tant mieux, s'il est si bon pour toi, que je lui ai répliqué. Il n'a pas été pour toutes celles qui sont venues avant toi, sans quoi elles y seraient encore. Elle a paru surprise de ce que je lui disais là, et elle est partie toute pensive, sans rien ajouter. Alors je lui ai crié de loin. Ben demande-lui donc à ton oncle où elles sont passées. Là-dessus, elle s'est sauvée. Elle ne s'est arrêtée qu'au chalet. Ben, tout ça finira entre vous par du vilain, conclut la mère Muche. Tu te mêles de ce qui te regarde pas. T'as peut-être bien tort, père Violette. Allez, en attendant vite ton pio. Oh, nom de Dieu, la voilà. Qui? Ben, notre paroissien. Le père Violette sauta sur son bâton comme s'il avait à se défendre contre quelque animal redoutable. La mère Muche allongea le nez à la fenêtre. Bon sang, fit-elle, c'est vrai qu'il est pas beau. Bénédicte Masson traversait la cour. L'apparition de cet homme dans le soir qui tombait était sinistre. Il sortait du bois comme une bête de sa tanière, et la façon qu'il avait de tourner son mufle de tous côtés comme s'il cherchait une proie à dévorer donnait le frisson. Il aperçut soudain la cabaretière et derrière le garde qui le considérait la première avec effroi, le second avec son habituelle hostilité. Sans hésitation, il pénétra dans la cuisine. « Vous, j'ai à vous parler, » fit-il au garde tout de suite. « Si vous voulez me suivre, ce ne sera pas long. » Le père Violette se rassit sur son banc, affectant une tranquillité méprisante. « Moi, j'ai rien à vous dire, » déclara-t-il. La mère Muche était loin d'être à son aise. Elle avait un dîner à préparer pour des gens des deux colombes qui arrivaient le soir même à la villa où rien n'était prêt pour les recevoir et elle eût voulu voir les deux hommes au 500 diables. Enfin, comme à tant d'autres, Bénédicte lui faisait peur. Ben, « Allez vous expliquer sous la tonnelle !» leur suggéra-t-elle. Mais le père Violette ne bronchait pas. Il redemanda même un pio. « Écoutez, père Violette, » fit Bénédicte Masson, « si vous voulez qu'on trinque ensemble, il ne tiendra qu'à vous, mais il faut qu'on s'explique une fois pour toutes. Le pays est assez grand pour nous deux. » Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, en nous gênant. « Je vous gêne donc ?» releva l'autre. Bénédicte Masson s'assit sur un escabeau et, la tête basse, sombre et taciturne, cessant de le regarder, il répondit « Oui ». « Faudrait-il que je disparaisse moi aussi ?» émit hardiment le garde. Mais il se tut car il n'avait pas achevé sa phrase que l'autre avait relevé la tête et le brûlait de son regard de feu. Puis cette flamme finit par s'éteindre. La tête retomba sur la poitrine et Bénédicte reprit d'une voix sourde. « Mais je sais ce que vous racontez partout. Faut vous taire, Père Violette. Moi, j'en ai assez. Eh bien oui, elles sont parties. Je ne peux pas garder une ouvrière. Je ne peux garder personne auprès de moi. Je fais peur à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai fait peur à madame. Oh, laissez-moi parler, madame. Je suis si content de m'expliquer devant vous. Vous ferez peut-être entendre au Père Violette qu'il faut qu'il tienne sa langue. Ma vie n'a rien de mystérieux. Je n'ai jamais fait de mal à personne. On n'a qu'à me regarder pour comprendre que je n'ai pas besoin de leur faire du mal, pour qu'elles fichent le camp. Je ne suis pas venu ici pour faire le malin. Je suis venu ici pour dire au Père Violette, j'en ai une en ce moment, une enfant, une petite nièce, une orpheline, que j'ai recueilli et que je ne dégoûte pas trop, et qui veut bien me servir de bonne, qui a été malheureuse, toute petite, et qui m'est reconnaissante de ce que je peux faire pour elle. Eh bien, Père Violette, faut pas la dégoûter de moi. Mais ça me regarde pas, moi, tout ça, grogna le garde. La cabaretière avait glissé un verre devant Bénédicte Masson. Monsieur a raison, déclara-t-elle en vidant le reste du pot dans le verre. Il n'y a pas de bon sens à vivre comme ça, sur la même terre, en se faisant la mine. Trinquez, et serrez-vous la main, et qu'il soit plus question de rien. Mais le père Violette, têtu, répétait encore. « Tout ça, ça me regarde pas. Non, tout ça, ça me regarde pas. » Bénédicte Masson repoussa le verre, se leva, se planta devant le garde et lui dit la voix rauque. « Si ça ne vous regarde pas, quand la petite passera près de vous, gardez votre langue. Gardez votre langue, Père Violette, parce que je vais vous dire. Si celle-là s'en va, comme les autres qui sont peut-être partis aussi à cause de vos ragots, eh bien c'est vous que je rends responsable. Moi, vous savez, la vie, je m'en fous, et je vous crèverai comme un chien. » Là-dessus, il s'en alla, après un bref salut à l'hôtesse, traversa la cour, gagna le bois qu'il reprit dans son ombre. « Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez entendu, le sauvage ?» fit entendre le père Violette, quand l'autre fut déjà loin. « Écoute, dit la mère Muche, cet homme-là me paraît à bout. Oh, je souhaite pour toi que la septième, elle reste. » Chapitre 18 Des nouvelles de la marquise. Ma chère Christine, je vous écris parce que je n'ai plus d'espérance qu'en vous, et en Monsieur Bénédicte Masson, espérance bien faible, hélas. Maintenant que je suis loin de vous, comment vous convaincrai-je de ma trop réelle infortune, vous qui n'y avez pas cru quand j'étais frappé sous vos yeux? Non, Christine, ce n'est pas une folle qui vous écrit. Ce n'est pas une monomane qui se meurt d'une idée fixe, comme vous l'avez pensé longtemps, comme vous le pensez sûrement encore, sans quoi vous ne m'eussiez pas laissé partir, vous ne m'eussiez pas, vous et M. Bénédicte Masson, abandonné à mon bourreau. C'est la plus malheureuse des créatures à qui l'on vole sa vie, chaque jour, chaque nuit, goutte à goutte. C'est la victime d'un monstre qui a déjà dévoré des générations et qui vient chercher sa nourriture dans des veines épaisses, visées par son insatiable morsure. Ah, ne souriez pas, Christine, comme je vous ai vu déjà si tristement sourire. Pourquoi ne pas me croire, vous qui m'avez vu? Pourquoi ne pas accepter mon mourant témoignage? Ce mot de vampire, quand je le prononçais pour la première fois devant vous, n'évoquait qu'un vague fantôme né de mon imagination malade. Et pourtant, il était là, entre nous, en chair et en os. Christine, cela existait, les vampires. J'admets qu'ils aient disparu peu à peu de la surface de la terre, poursuivis, traqués jusqu'au fond de leurs funèbres repères, mais pourquoi ne voudriez-vous pas qu'au moins l'un d'eux ait survécu à cette race maudite? Quelquefois, les matelots qui reviennent des mers lointaines nous racontent qu'ils ont soudain vu sortir du sein des flots les reflets formidables de ces monstres qui, au témoignage de l'histoire naturelle, peuplaient la mer au premier temps du monde. Le serpent de la baie d'Along est peut-être le dernier de cette espèce redoutable, comme celui que vous savez est peut-être le dernier vampire vomi par les tombeaux. Son tombeau vide d'où il est sorti il y a plus de 200 ans pour se repaître du sang des vivants. J'ai voulu le voir, je l'ai vu, j'en ai soulevé la pierre. Guidé par un homme, par le plus humble des hommes à qui mon sort a inspiré quelque pitié et qui en cachette vous fait parvenir ses lettres, je suis descendu dans la crypte mortuaire de la chapelle des Coulterets, dont cet homme est le gardien. Ce sont les tombeaux de la famille. Le premier de la seconde rangée à droite, c'est celui-là. Sigil-Louis-Jean-Marie-Chrysostome, marquis de Coulterets, premier écuyer de Sa Majesté. Et une plaque sous la date où l'on trouve cette mention, les restes de Louis-Jean-Marie Chrysostome ont été dispersés en 1793 par la Révolution. Dispersés, mais je sais où ils sont, moi, les restes de Louis-Jean-Marie Chrysostome. Et vous aussi, Christine, qui ne me croyez pas, vous le saurez un jour. Il se porte fort bien. Quelle vision que cette crypte, cette tombe vide m'attire. Quelque chose me dit qu'une nuit je me réveillerai sous cette pierre et que moi aussi, à mon tour, je me lèverai par le fantôme qui cherchera sa vie. Oh, qu'un pareil destin me soit épargné, Seigneur. Vous savez à quel prix, Christine, vous savez ce que l'on doit faire de nos cadavres pour qu'il ne soit plus redoutable après la mort. Qu'au moins mon tourment cesse avec ma vie. Sangor m'a promis de ne point m'épargner quand je serai morte. Moi morte, il n'a aucune raison de me tromper. Et puis ce sera son intérêt, ce dernier geste qui me libérera à jamais des horribles festins de la terre. Je me suis arrangé pour cela. Vous allez me croire plus folle que jamais, Christine. Christine, oh. J'espère avoir bientôt l'occasion de vous convaincre de ce qui se passe ici, de vous fournir une preuve décisive, irréfutable. Et alors vous accourrez, n'est-ce pas, vous et Bénédicte Masson, vous me sauverez, s'il en est temps encore. Le marquis ne me quitte plus. Depuis que je ne suis plus qu'un souffle, jamais il ne m'a autant aimé. Oh, c'en est fini de cette liberté relative dont je jouissais encore à Paris. Il a renoncé à m'abuser sur la nature de son mortel amour. Il ne cherche plus à tromper personne, à me faire croire à moi-même que je ne suis qu'une malade. C'est fini, cette étape-là. Je suis prisonnière de l'époux qui me dévore. ses lèvres ne me quitteront que lorsque j'aurai rendu le dernier soupir. Le voilà bien tranquille pour boire sans remords le sang pâle que l'ingéniosité diabolique de Sahib Khan parvient encore à faire couler dans mes veines. Je ne sais comment je puis encore me traîner. Ce médecin hindou ressusciterait les morts. Christine, je vais vous dire comment j'ai voulu profiter des forces que, je ne sais par quel sortilège, il m'avait redonnées pour m'échapper au cours du dernier voyage, mais assez pour aujourd'hui, assez, ils viennent, je les entends. Ils rentrent de la promenade et ils viennent prendre des nouvelles de ma santé. Sing Sing leur ouvre déjà la porte. Deuxième lettre. Ma chère Christine, vous savez comment on m'a fait quitter Paris, à la suite de quelle scène entrevue par vous et Bénédicte Masson. On ne comptait pas sur vous, je puis vous l'affirmer, on se croyait seuls à l'hôtel. Quand vous êtes accourus à mes cris, quand vous avez pénétré dans cette chambre, où j'étais déjà sa proie, me débattant vainement contre sa morsure, sa figure penchée sur moi et qu'envahissait déjà l'ivresse de sa passion du sang, de mon sang. Sa figure est devenue terrible. Je me suis dit, ils sont perdus. Mais c'est moi qui étais perdu. Vous, on vous a laissé là-bas. Vous supprimez, cela pouvait devenir trop grave, beaucoup trop compliqué. Après tout, qu'est-ce que vous aviez vu? Rien. Qu'est-ce que vous aviez entendu? Un cri de folie, oh, toujours de folle. Mes confidences antérieures, oh, imagination d'un cerveau endolori. Tout de même, après une telle scène, il n'y avait plus qu'à en finir avec moi, jusqu'à plus soif. Et l'on m'a emporté. Oh! Je savais bien que c'était la fin. Ce sentiment affreux d'une pareille mort, suivi de je ne sais quoi de plus horrible peut-être encore, m'a fait me traîner une dernière fois jusqu'à vous, dans le moment qu'il pouvait me croire incapable d'un mouvement. Christine, Christine, il m'a semblé que dans cette dernière entrevue-là, l'équilibre trop bien établi de votre esprit calme, trop calme, a chancelé. J'ai vu passer dans vos yeux non seulement cette pitié coutumière que je disais avec désespoir, mais quelque chose de plus, quelque chose que je pourrais peut-être formuler ainsi. Si par hasard la folle avait raison. Et chez Bénédicte Masson, j'ai trouvé aussi quelque chose de nouveau. Eh bien, accourez. Accourez vite si vous ne voulez pas me trouver morte. Je me disais dans ma dernière lettre que j'avais voulu me sauver au cours du voyage. Oui, j'avais résolu cela. J'étais décidé à risquer le cabanon, la maison de folle, dont on a plus d'une fois menacé, plutôt que de continuer cette agonie. Mais eux, ils m'avaient deviné. Ils devinent tout. Sangor, Sing Sing, devine tous les gestes que je vais faire. Sahib Khan, qui était du voyage, comme vous pensez bien, devine toutes mes pensées. Et le marquis peut être tranquille. On lui garde bien sa proie. Tout de même, j'ai tenté l'impossible aventure. Dans l'auto, je ne pouvais rien espérer. Nous étions encore dans Paris, que cette auto se transformait en cage de fer, les volets se rabattaient sur les rideaux, je pouvais crier là-dedans. Mais je ne criais pas, j'attendis une occasion. Elle se présenta à l'aurore, nous eûmes une panne. Il fallait travailler à la voiture. Je faisais celle qui dormait, épuisée de vie, je faisais la morte. On me transporta dans une chambre de l'hôtel qui donnait de plein pied sur la cour où l'on réparait l'auto, et par derrière, sur un jardin qui ouvrait sur la campagne. À quelques centaines de mètres, j'aperçus la lisière d'une forêt. Gagner ces bois, m'enfouir dans les arbres, dans les feuilles, dans la terre, leur échapper. Du lit où l'on m'avait étendu, j'apercevais dans la clarté même du matin le petit espace qu'il me fallait parcourir. Par la pensée, je le traversais déjà, je glissais et délivrais jusqu'à ce bois sauveur. Mais, en réalité, comment faire? Devant ma porte se tenait Sanglore. Un peu plus loin, le marquis, qui se promenait avec Saïd Khan, tandis que les employés du garage que l'on avait réveillé se hâtaient de remettre la voiture en état, sous ma fenêtre, dans le jardin. Sing Sing. Je savais combien celui-ci était voleur, chapardeur, fureteur, ne pouvant rester en place. À l'hôtel, on l'attachait quelquefois dans sa niche, comme une mauvaise bête de garde, sur laquelle on ne peut compter que la chaîne au cou. Mon espoir était là. Déjà, agile comme un chat, je l'avais vu grimper dans un arbre pour y croquer je ne sais quel fruit vert. Qu'aperçut-il du haut de cet arbre? Toujours est-il que, se balançant de branche en branche, il sautait sur le bord d'une fenêtre entrouverte au premier étage et disparaissait dans le bâtiment. En une seconde, je fus debout. J'ouvris la fenêtre. Depuis bien longtemps, je ne m'étais senti aussi forte. Je ne pesais pas plus qu'une plume. Mes jambes allaient dans le jardin et déjà, je m'élançais. Tout à coup, je poussai un cri terrible, j'avais senti la morsure. Troisième lettre. Ma chère Christine, je vous écris quand je peux, comme je peux, le plus souvent la nuit, à la lueur de ma veilleuse, et au moindre bruit, je cache mon chiffon. Je sens qu'il faut que je vous écrive pour vous convaincre. Je veux que vous veniez. Montrez mes lettres à Bénédicte Masson. J'y compte bien. Je compte sur vous deux. Je vous le répète, je ne cesserai de vous le répéter. Et si vous arrivez trop tard, mes lettres serviront peut-être à en sauver d'autres. Car il n'est point possible que la vérité ne se découvre pas un jour. Il n'est pas possible que le monstre qui mord à distance continue à se promener pendant des siècles encore au milieu de ses victimes qui peuvent croire quelquefois qu'elles sont piquées à un rosier et qui en meurent. Ma chère Christine, je reprends mon récit au point où je l'ai laissé la nuit dernière. Je me sentis donc mordu par le monstre, par ce monstre qui était quelque part derrière moi. Oh, l'horrible sensation! Oh, je la connaissais! Au moment où je m'y attends le moins, toujours au moment où je m'y attends le moins, je sens sa dent aiguë qui me pénètre la veine et qui se retire après y avoir laissé son venin. Oui, du venin! J'imagine que les vampires ont, comme les vipères, une dent creuse pleine de venin, d'un certain poison qui se répand dans tout votre corps avec une rapidité, avec une douceur à laquelle il est impossible de résister. Vous sentez immédiatement vos forces fuir comme par une porte ouverte qui est ce petit trou de la morsure. C'est un engourdissement qui surprend plus qu'il ne fait souffrir et qui en est d'autant plus terrible lorsque, comme moi, on en connaît la suite. La suite, c'est le monstre lui-même qui arrive. Car les vampires ont cette particularité que l'on pointe les vipères. Ils mordent à distance. Je savais qu'il était là. Je ne me retournais même pas. J'essayais, en un effort suprême, de lutter contre l'anéantissement qui déjà me gagnait. Je parvins à me traîner jusqu'à la barrière qui fermait le jardin. Et puis, Vaincu, je tournais sur moi-même. Alors j'aperçus le marquis à la fenêtre de la chambre qui riait. Quatrième lettre. Se doute-t-on de quelque chose? Drouine, le sacristain, le gardien des morts dont je vous ai parlé, un brave homme dans toute l'acception du mot, m'a dit de me méfier de tout. Si l'on surprend son dévouement pour moi, il perdra sa place qui le fait vivre, mais ce n'est pas ce qui l'arrête, il ne craint que pour moi. Le bon serviteur, oh, je lui revaudrai cela. En attendant, nous prenons 1000 précautions. Je feins une grande dévotion. Vous savez que je suis catholique. Et sous prétexte d'aumône pour la chapelle, je glisse dans le tronc mes bouts de lettres. Sing Sing lui-même, qui suit la trace de mon manteau comme un mauvais lutin, n'y voit que du feu. Et Drouine ouvre le tronc et vous fait parvenir ses chiffons. À la suite de ma dernière escapade, on m'avait jeté dans la voiture comme un paquet, et je ne suis sorti de là que dans la cour du château. Poulteret est une vraie prison. Des fossés, des murs qui datent du Moyen-Âge, la chapelle est dans la cour ainsi que ce qui reste du donjon. On me laisse me promener dans cette cour, qu'ils apportent encore la baille comme autant jadis et qui est à moitié transformée en verger. La chapelle a un ossuaire, un petit cimetière qui l'entoure avec des parterres de fleurs. En cette saison, toutes ces pierres qui appartiennent au passé et à la mort n'ont rien de particulièrement lugubre sous la parure printanière qui les masque. La verdure triomphe partout, mange les murs, bouche les plaies. La vie déborde de toutes parts pendant qu'elle me fuit. De ma fenêtre, située au premier étage, j'aperçois par une brèche un paysage enchanté qui se mire au calme de la rivière qui se jette là-bas dans la Loire. Et moi, je me meurs. Je suis venu ici pour mourir. Je sens, je sais qu'on ne quittera ces lieux que lorsque je serai morte. On ne m'y a amené que pour aspirer en paix mon dernier souffle. Jamais le marquis n'a été aussi doux, aussi aimable, aussi plein de petits soins. Il s'est fait mon valet, il veut être seul à me servir. Jamais il ne m'a dit d'aussi douces choses. Il me jure qu'il n'a jamais aimé que moi. Comme il m'aime, comme il m'aime. Comme il m'offre son bras pour y sentir ma faiblesse. Son amour m'a tout pris. C'est le grand vampire. Le monde est plein de petits vampires. Il n'y a guère de couples ici-bas qui ne se dévorent. Il faut que l'un mange l'autre, que l'un profite au détriment de l'autre. Tantôt c'est le mâle, tantôt c'est la femelle. Un égoïsme plus fort réduit peu à peu l'être qui vit dans son ombre à zéro. Il n'est point nécessaire pour cela que l'on se perce les veines et que l'on se suce le sang. C'est l'histoire de presque tous les ménages. Mais celle d'une autre, c'est autre chose. C'est l'histoire du grand vampire qui est sorti de sa tombe il y a plus de 200 ans et qui ne compte plus ses victimes. Je n'ai rien inventé. Je vous le répéterai jamais assez. Ce n'est pas une histoire, c'est de l'histoire. Et Drouine ne l'ignorait pas. Drouine croit, lui, comme beaucoup d'autres du reste, au village, qui fuit quand passe le grand vampire. Nous nous sommes confessés devant le tombeau vide, et je lui ai tout dit. Mais il ne peut rien pour moi, rien avant ma mort. Mais vous, Christine, vous, Bénédicte Masson, vous pouvez me sauver avant ma mort. Je vous attends. Cinquième lettre. Cette nuit, il m'a accompagné jusqu'à ma porte comme un amant soumis, et il s'est retiré très triste. Alors j'ai vivement fermé la porte, j'ai poussé le verrou, et j'ai couru à la fenêtre, et j'ai fermé la fenêtre. Car tant que la fenêtre est ouverte, il peut me mordre à distance. Maintenant, je suis plus tranquille. Je sens que je vais avoir une nuit tranquille. Quelle paix sur la terre, enfin. Enfin, une lune éblouissante apparaît par la brèche du rempart. Un paysage d'argent m'entoure. Je me sens la légèreté d'un ange. J'ai des ailes. Si j'ouvrais la fenêtre, j'imagine que je pourrais me balancer au-dessus des eaux miroitantes de la Loire. J'y regarderais une dernière fois mon image terrestre et je filerais vers les étoiles, détaché à jamais des liens de sang qui me rivent à cette terre maudite. Mais je n'ouvrirai pas la fenêtre car c'est trop dangereux. La blessure pourrait entrer par la fenêtre. Horreur, oh horreur, je suis blessé, mais par où est entrée la blessure? Qui le dira jamais? Pitié, mon Dieu! Sixième lettre. Mais concevez-vous cela? Oui, tout était fermé, il me mord maintenant à travers les murs. Et vous n'accourez pas? Septième lettre. Oh, je vais vous prouver que je ne suis pas folle. Aucun livre au monde n'a jamais dit qu'un vampire pouvait mordre à travers les murs. Mais cependant, j'ai été mordue. J'ai cherché partout. Et j'ai fini par découvrir un petit trou, large d'un doigt, dans le mur. En face de mon prie-Dieu, c'est par ce petit trou-là que le monstre m'a mordu pendant que je faisais ma prière. Huitième lettre. Oh, je veux savoir comment il mord à distance. Je le saurai s'il m'en laisse le temps. Non, non, je ne suis pas folle, non, je ne suis pas folle. Neuvième lettre. Horreur de sa bouche ensanglantée quand elle quitte ma veine inépuisable et qu'il rêve son front de démon indien pour me dire « Je t'aime ». Dixième lettre. Ainsi aimaient les démons indiens, les asuras domestiqués par Saïd Khan, les premiers vampires du monde connus. Non loin de Bénarès, dans une petite île du Gange, il y a un cimetière plein de leurs victimes sacrées. Le grand vampire européen devait rendre visite à ses ancêtres et là, il a connu Saïd Khan, qui est un médecin très moderne. Là-bas, la colonie anglaise raffolait de lui littéralement, ce qui ne l'empêche pas d'être en communication directe avec les Asuras. Aux Indes, c'était un fait que personne ne mettait en doute et qui faisait du reste sa réputation. Moi, j'en riais, je le traitais de charlatan. Je ne croyais pas aux vampires dans ce temps-là. J'avais tort. J'ai eu le temps de m'instruire depuis. Je voudrais bien instruire les autres qui doutent encore. Mais je sens que la preuve va venir. J'ai autant de lucidité qu'un Sherlock Holmes, croyez-moi. Et il en faut pour une enquête pareille. Mais je veux savoir comment il mord de loin. Onzième lettre. Hier, j'ai presque touché la preuve. La preuve que je ne suis pas folle. Douzième et dernière lettre. J'ai la preuve. Je vous l'envoie, et maintenant accourez, car il va me tuer si je ne meurs pas assez vite. » À ce dernier griffonnage que lui apporta la poste, un petit paquet recommandé était joint, dont Christine fit sauter des cachets avec une angoisse, une inquiétude, dont elle ne se défendait plus.